Philippe Meyère, bonsoir.
Bonsoir Pierre Gandus.
Philippe Meyère, vous êtes le président du Bnebri de France et avec vous, nous allons revenir sur la presque fin du cauchemar pour les Israéliens, à savoir la libération par le Hamas de tous les otages vivants qui étaient détenus dans la bande de Gaza et la restitution au compte-goutte des otages morts, ce qui est en totale contradiction avec la phase 1 de l'accord de cessez-le-feu du président américain Donald Trump. Et la question qui se pose à présent est la suivante, quelle va être la suite pour Israël ?
Écoutez Pierre, avant de parler de la suite, quand même... Rappelons-nous les 10 jours que nous venons de vivre. 10 jours historiques, 10 jours d'une intensité émotionnelle forte, avec des ascenseurs émotionnels très brutaux. 2 ans après, jour pour jour, les otages vivants rentrent à la maison. Le président Trump fait à la Knesset un discours historique, le cessez-le-feu intervient, l'armée israélienne commence à se désengager, on commence à penser à la suite. Et finalement, j'ai envie de vous dire, Pierre, on est enfin rentré dans ce 8 octobre qu'on attend depuis 2 ans. Le 7 octobre, en quelque sorte, a commencé à marquer sa fin. On est passé au 8 octobre, qu'on attendait depuis 2 ans de souffrance, d'espoir, de déception, de colère, d'inquiétude. On a eu tous les sentiments pendant 2 ans. Là, on est passé au 8 octobre. Et évidemment, la joie intense et vraiment souvent difficile à décrire de ce retour des otages vivants parmi leurs proches, les images qu'on a vues. Et bien évidemment, l'attente tout aussi forte et intense des corps des otages décédés pour que les familles commencent à faire leur deuil. On sait dans la religion juive l'importance du deuil, l'importance de la sépulture. Et comme vous l'avez dit très justement, Pierre, ce compte-goutte qui a continué, qui continue encore aujourd'hui, corps par corps, ce qui est absolument terrible pour les familles. Donc bien sûr, toute la joie n'est pas là. Nous sommes le 8 octobre, mais j'ai envie de vous dire, le combat ne commence pas, parce qu'il a commencé le 7 octobre, il y a 2 ans, mais le combat continue, bien évidemment. Une fois l'émotion passée, une fois la joie de voir nos frères et sœurs otages israéliens tous rentrer vivants à la maison, l'attente de restitution des corps, le combat continue, tout simplement parce que il reste des défis immenses. J'ai envie de vous dire, au-delà de cette attente, ce symbole, de cette joie des otages vivants rentrés, il reste tous les autres défis. Et ils sont évidemment immenses. Et on a vu les premiers jours qui ont suivi cette restitution. Comme vous l'avez dit, le cessez-le-feu du Hamas qui n'a évidemment pas été respecté, on pouvait s'y attendre. Le début des règlements de compte dans la bande de Gaza entre le Hamas et d'autres Palestiniens, le Hamas qui exécutent des Palestiniens dans la rue, là on n'entend personne. Là il n'y a pas de génocide, il n'y a rien. On n'entend personne s'offusquer, notamment personne à l'extrême gauche en France. On a vu malheureusement 2 soldats israéliens, 2 soldats de Tzal qui ont été tués, assassinés par les terroristes islamistes du Hamas. Donc on voit bien que cette situation reste très fragile. Donc ce combat continue de soutien, de solidarité avec Israël, évidemment de pression pour que tous les otages décédés soient restitués aux familles, et puis le combat pour les étapes d'après. Quelle gouvernance en termes d'interlocuteurs Israël, évidemment ça ne peut pas être le Hamas. Qui va désarmer le Hamas? Pour l'instant, on en est très loin. Que va-t-on faire des membres du Hamas qui sont toujours à Gaza? On parlait de les faire partir, mais enfin, bon, qui va s'en occuper? Qui va le faire? Évidemment, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Ils sont toujours armés, ils ne déposent pas les armes, ils contrôlent toujours la bande de Gaza. Quid de l'autorité palestinienne avec ce Mahmoud Abbas, que finalement il n'y a plus que la France pour lui faire confiance, la France et son président, pour faire confiance à un homme de 90 ans qui a passé sa vie à offrir des récompenses aux familles des terroristes qui attaquaient Israël et qui maintenant deviendrait un interlocuteur de la paix. C'est évidemment crédible pour personne. Donc quelle gouvernance palestinienne en face? Quelle sécurité pour Israël? À quoi va ressembler la région? À quoi va ressembler l'ensemble du Proche et Moyen-Orient? Tout ça, quid des accords d'Abraham à venir? On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, on parle de la Syrie, mais enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. Quid de la pression des États-Unis, même sur Israël et sur Benjamin Netanyahou, qui va continuer? Donc, tout ça, ce sont des problématiques majeures, vraiment majeures, capitales. Le combat continue pour nous également, Pierre. On en parle depuis 2 ans à cette antenne. Ces 2 ans qui ont été synonymes évidemment d'un cauchemar pour Israël, mais de conditions de vie terribles pour les Français juifs. On sait ce qui s'est passé avec ce tsunami antisémite, et on pourra peut-être y revenir plus tard, mais qui continue encore aujourd'hui, qui ne s'est pas arrêté parce que les antisémites français, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'ailleurs, ont vu les otages rentrer. Ils ne se sont pas dit, bon, ben, on va laisser les Français juifs tranquilles maintenant qu'ils respirent un peu. Non, 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 eux, ils continuent. Donc, tous ces combats-là continuent, et j'ai envie de vous dire, Pierre, que ce 8 octobre, auquel on est rentré maintenant, c'est un moment où le combat, évidemment, se poursuit. Et il y a deux conditions, moi, qui me tiennent à cœur et qui sont importantes. Les Français juifs ou les juifs dans le monde entier doivent rester unis aux côtés d'Israël. Les Français juifs et les juifs du monde entier doivent rester mobilisés contre nos ennemis communs. Il y a eu le temps de la joie, il y a eu le temps du soulagement, tout à fait légitime, mérité, qu'on attendait tellement depuis le 7 octobre 2023. Mais clairement, restons unis, restons engagés, restons mobilisés. Parce que j'ai envie de vous dire, peut-être pas le plus dur, émotionnellement, on l'a eu le plus dur, mais des choses très importantes sont devant nous et ce combat se poursuit, bien évidemment.
Alors, dans cette actualité, il y a une autre actualité un peu plus réjouissante. Israël qui affiche l'une des espérances de vie les plus élevées du monde, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, avec 83,8 ans, le pays se classe quatrième parmi les 38 États membres, juste derrière le Japon, la Suisse et l'Espagne. Et ce résultat remarquable survient malgré une dépense publique de santé relativement faible en Israël, qui représente aux alentours de 7,6% du PIB, contre plus de 11% dans la plupart des pays européens. Un PIB aussi en Israël qui se porte très bien malgré ces 2 années de guerre.
Oui, Pierre, j'ai envie de vous dire, ça a un nom. Ce que vous venez de citer comme chiffre ou comme fait, cela a un nom, ça s'appelle le génie et la résilience du peuple juif. C'est-à-dire qu'on a eu 2 années terribles pour Israël, qu'aucune démocratie ne souhaiterait vivre, ou peut-être même ne pourrait vivre. On a eu une grande partie du pays mobilisé, à tous les sens du terme, sur le front et à l'arrière. On a eu 2 ans de traumatisme profond après le 7 octobre. Et pendant ce temps-là, Israël reste ce qu'il a toujours été depuis 1948. C'est un pays absolument génial, un pays qui continue de produire, un pays qui continue d'innover, un pays qui continue de résister et de gagner. Il ne s'agit pas que de résister, de gagner. C'est vrai que dans les chiffres que vous donnez, Pierre, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est quand on regarde, alors c'est pas très technique, mais quand on regarde le chiffre du PIB par habitant, c'est-à-dire concrètement la richesse que produit chaque habitant, ce qui est quelque part le chiffre de développement le plus significatif pour un pays, notamment pour une démocratie. Eh bien maintenant, le PIB pour habitant en Israël est passé à 60 000 dollars. Alors comme ça ne veut rien dire à nos auditeurs. Mais 60 000 dollars, c'est aujourd'hui plus que par exemple des pays comme le Royaume-Uni ou la France. Alors il faut quand même imaginer qu'après 2 ans de guerre, après 2 ans d'une main-d'œuvre, entre guillemets, qui était plus occupée à défendre la souveraineté de son pays qu'à travailler dans les usines ou dans les bureaux, eh bien ce pays-là continue de se développer, continue de prospérer et dépasse maintenant sur des critères objectifs, des critères économiques objectifs, dépasse des pays comme, en termes de richesse produite, des pays comme la France ou le Royaume-Uni, qui ne sont quand même pas des petits pays économiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce flot de mauvaises nouvelles, d'inquiétudes, de traumas que nous avons vécu depuis 7 octobre, Israël non seulement résiste, mais Israël continue de lever la tête et d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. Je le disais, c'est le génie israélien, le génie juif, la résistance, la résilience juive, israélienne. C'est évidemment une marque de fierté supplémentaire, si tant est que nous en avions besoin d'une de plus. Et c'est surtout une leçon pour chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tous des soucis, nous traversons tous quelquefois des moments compliqués. Chaque fois que ça arrive, pensons à Israël. Pensons à Israël, ce qui s'est passé depuis 2 ans, où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à afficher comme performance. C'est un petit pays, mais c'est un très grand pays. C'est un très grand pays qui nous étonne, qui nous bluffe, qui nous surprend et qui surtout qui nous rend si fiers. Et ces chiffres-là, ce sont que des chiffres, mais derrière, il y a tellement. Donc vraiment, bravo Israël.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'antisémitisme qui continue malgré la restitution des otages israéliens. On va évoquer à présent l'université Paris 8. Philippe Baptiste, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a déclaré hier soir souhaiter une action en justice après une réunion d'étudiants à l'université Paris 8 qu'il qualifie de rassemblement au relent antisémite dans une vidéo diffusé par un média en ligne, des participants répondent non à la question d'une intervenante « Condamnez-vous le 7 octobre ?» D'ailleurs, Philippe Baptiste a reçu aujourd'hui le président de Paris 8 pour comprendre comment un tel événement a pu se tenir sur son campus. Et puis, dimanche dernier, invité de l'émission « Tout est politique » sur France Info, Carole Zerbib, qui est proviseur d'un établissement parisien et membre de l'Observatoire national de la laïcité, a dressé un constat alarmant. L'antisémitisme dans les établissements scolaires depuis le 7 octobre est devenu extrêmement préoccupant. Selon elle, les incidents se sont multipliés, touchant désormais non seulement les lycées et les collèges, mais aussi les écoles primaires.
Oui, mais j'ai envie de vous dire, Pierre, là aussi, rien de neuf sous le soleil. Ce qui s'est passé à Paris 8 récemment et que vous évoquiez à l'instant est juste terrible. Évidemment pas surprenant, mais juste terrible. Il faut imaginer une faculté, une université, plein cœur de Paris, qui a organisé un rassemblement, conférence, on appellera ça comme on veut, ça n'a aucune importance, où clairement on a entendu des choses, on a vu des choses, il y a les vidéos qui le montrent, plus que choquantes, de l'apologie du terrorisme, de l'antisionisme militant pur, de l'antisémitisme pur. Il faut imaginer que ça arrive après le début de l'accord de paix, donc après la restitution des otages. Donc on est à un moment où il n'y a pas de conflit à Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire les choses essayent de s'arranger. Et bien malgré tout, on voit ces militants de la haine, ces militants de l'extrême-gauche, portés quelque part par leurs gourous respectifs, hein, qu'ils s'appellent Rima Hassan, Mélenchon ou d'autres. On voit bien ce que Rima Hassan continue de dire, hein, sur les réseaux sociaux tous les jours, depuis même depuis 15 jours, depuis 10 jours. Eh bien, ce qui se passe dans ces universités est terrible parce qu'on n'imagine pas, enfin plutôt malheureusement on l'imagine, le quotidien des étudiants juifs en France qui vivent des situations extrêmement difficiles depuis 2 ans et qui maintenant, malgré tout, voilà, ça continue. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un directeur, qu'un président d'université accepte que de tels rassemblements puissent se tenir. Après coup, oui, il y aura enquête, on est habitué à cela. En amont, comment est-ce que cela peut être accepté? Quand on sait ce qui se passe depuis 2 ans, enfin, aucun président d'université aujourd'hui ne peut quand même être surpris qu'une partie des étudiants deviennent des militants antisionistes acharnés et mettent à mal le quotidien des étudiants juifs. On le sait depuis 2 ans, ça arrive toutes les semaines, depuis 2 ans un peu partout en France. Et maintenant, on a un président d'université parisienne qui serait surpris de cela, mais de qui se moque-t-on? Personne ne peut être surpris de cela. Et vraiment, quand on voit que l'université française, les lieux de savoir en France, ne sont plus des sanctuaires, mais sont maintenant, dans trop souvent de cas, des lieux de militantisme antisioniste, de haine antisémite, où les étudiants juifs sont vilipendés, sont montrés du doigt, sont laissés de côté, voire sont agressés, eh bien, cette situation-là n'est pas acceptable. Que le nouveau ministre de la Recherche veuille faire une enquête, veuille convoquer qui il veut, très bien qu'il le fasse. Mais j'ai envie de vous dire, ce temps des convocations et des enquêtes, malheureusement, est un peu révolu. On le sait depuis 2 ans. Donc vraiment, il y a, là aussi Pierre, on le dit à cette antenne depuis 2 ans, il y a un sursaut global à décréter dans ce pays, au plus haut sommet de l'État, si tant est qu'il y en ait encore un, au plus haut sommet de l'État, il y a un sursaut à décréter de lutte contre l'antisémitisme dans tous les rouages de la société, et notamment, parce que c'est peut-être le plus important, à l'école, à l'université, vous parliez de l'école primaire, on sait très bien, il y a eu des enquêtes, il y a eu des sondages, il y a des vidéos, il y a tout ce qui tourne, on sait ce qui se passe dans les écoles primaires pour des petits-enfants juifs, on sait ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées, à l'université, dans les écoles, partout c'est la même histoire, c'est cette extrême gauche qui répand un petit peu son venin partout, c'est cette culture wokiste qui répand son venin, qui a une cible, cette cible s'appelle Israël et par ricochet s'appelle les juifs, ce n'est plus acceptable. Arrêtons les enquêtes, arrêtons les tweets ou les réactions des ministres ou des présidents d'université qui condamnent, ça n'arrivera plus jamais ça, stop. Plus jamais ça, ce n'est plus entendable, ce n'est plus audible. C'est des mesures qui doivent être prises. Ces rassemblements ne peuvent pas se tenir. On sait en amont comment ils se termineront. Et vraiment que ce soit passé à Paris aujourd'hui, après la restitution des otages, alors qu'un cessez-le-feu est en cours entre Israël et le Hamas, ça en dit long, ça en dit long. Et quand je vous disais tout à l'heure, Pierre, que le combat continue, évidemment qu'il continue, on le voit là, ça en dit long sur la mobilisation qui doit encore être la nôtre, ne rien lâcher, ne rien accepter, ne pas baisser les bras, ne pas regarder ailleurs. Non. Les choses ne sont pas réglées, rien n'est réglé, on continue. Ce qui se passe dans l'université, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Ce combat contre la haine anti-juive, c'est le combat de notre génération. On le continue jour après jour, sans lâcher. Et malheureusement, je crains qu'on ait encore à en reparler dans des émissions suivantes.
Philippe Meyer, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le président du Bnei Brit France. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre Grandis.